c'est bien. Là, vous m'entendez ?
Oui.
C'est parfait. Voilà. Merci, Monseigneur. Alors, moi, je vais aborder, donc, d'abord l'approche historique du credo, puis ensuite, même mes confrères aborderont les autres aspects. Alors, c'est quelque chose de très complexe. Ça va durer presque un siècle. Hein. C'est très, très, très difficile au plan de l'histoire de l'Église. Je vais essayer de simplifier. Alors, d'abord, le terme lui-même, credo, je crois, en grec, pisteuo. C'est d'abord une confession de foi, une formule de foi baptismale. Alors, un mot sur le terme. Pendant les deux premiers siècles, on trouve plusieurs termes. Regula fidei, règle de foi, doctrina, traditio. Deux beaux termes chez saint Irénée. Regula veritatis. Attends, ça me fait peur ce truc-là. Tu peux le reculer un peu ? Voilà, ça me fait... Voilà, merci. Ou un très beau terme, Traditio Apostolorum, chez saint Irénée, tradition des apôtres. C'est vers le milieu du IIIe siècle, avec saint Cyprien de Carthage, qu'on va adopter le terme symbole pour désigner le credo. Ce n'était pas un terme extraordinaire hein, dans le monde grec, le terme de symbole, c'est avec l'Église qu'il va prendre de la densité, et puis n'est pas très bien adapté. Alors, on va dire que c'est le signe de tout le reste. Voilà, ce n'est pas un vrai symbole dans le sens strict du terme. Et on peut dire qu'au IVe siècle, le terme symbole de foi s'est généralisé. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un condensé de la foi chrétienne qui était transmise aux catéchumènes. C'est un petit condensé. Évidemment, je vais en parler. On a deux types de symboles de foi. Il y a les symboles de foi proprement baptismaux, dont je vais parler d'abord, et ensuite les formules dogmatiques qui seront élaborées par les conciles et qui, là, en fait, servent de défense de la foi. C'est deux choses assez différentes. Alors, d'abord, un mot sur les symboles de foi baptismaux. Les symboles de foi baptismaux, c'est en gros les trois premiers siècles. Évidemment, ça va continuer parallèlement aux formules des conciles. Hein. Mais en gros, c'est les trois premiers siècles. Alors, dans l'Église antique, on choisissait de devenir chrétien à l'âge adulte. Comme les gens venaient du paganisme, et paganisme, ça veut dire adoration des idoles. Et le Christ nous dit, c'est Satan. Il dit Baal, c'est Satan. Magie, superstition, sacrifice, sacrifice d'animaux. Alors, les judéo-chrétiens, c'est très 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 bref, hein. Mais pour l'essentiel, ce sont des païens qui deviennent chrétiens à l'âge adulte. Alors, il fallait les former. Il ne suffisait pas de dire « je suis chrétien, puis je vais me faire baptiser ». On ne voulait pas recevoir dans l'Église des gens qui ne savaient pas distinguer entre le paganisme et le christianisme. Donc, il fallait les former. Alors, on se faisait inscrire sur des registres de catéchumènes dans la cathédrale du lieu. Il y avait un évêque à peu près dans chaque ville, même dans les petites villes. Il y avait 10 fois plus d'évêques qu'à l'époque actuelle, ce qui était bien mieux. On se faisait inscrire sur un registre. On ne participait qu'à la première partie de la liturgie, liturgie des catéchumènes, liturgie de la parole. Et souvent, ça durait toute la vie. On se faisait baptiser la veille de sa mort quand on était très gravement malade. Pourquoi ? Parce que le christianisme, c'était une religion très exigeante. Le Christ, il nous donne des préceptes extrêmement difficiles à appliquer. On est païen, trouvait que c'était quand même très dur. On était pro-chrétien, mais bon, on attendait la fin de la vie, parce que le baptême l'avait de tous les péchés. Lorsqu'un catéchumène se sentait vraiment prêt, il se faisait inscrire sur le registre de ceux qui souhaitaient être baptisés à Pâques. Il était présenté par son parrain. Ça servait à ça, un parrain. Le parrain, il disait, oui, c'est vrai, il est chrétien, je le vois vivre. Donc le parrain venait avec le catéchumène, on l'inscrivait sur un registre, et alors, il suivait une formation très, très sérieuse pendant tout le carême. Hein, il était baptisé la nuit de Pâques. Alors, il y avait un certain nombre d'étapes, ce qu'on appelle les scrutins dans le langage occidental, dans le langage latin. Les scrutins, c'était des moments, des périodes, des étapes, qui étaient à la fois catéchétiques et sacramentales. On commençait par le commencement, on faisait la position du signe de la croix, les mains, les exorcismes, très très important les exorcismes. Il y avait énormément d'exorcismes dans l'Église, qui n'étaient pas des prêtres. Parce qu'on estimait que s'occuper de chasser les démons, c'était tout petit, à côté de sanctifier les dents. Et alors, comme ils avaient eu un commerce très long avec les démons dans les temples, on faisait beaucoup, beaucoup d'exercices. Et puis, ça se terminait à Pâques par la triple immersion dans le baptistère. Vers la fin de cette préparation longue et sérieuse, faite par les prêtres, parfois par l'évêque, parfois aussi par des clercs mineurs, par les diacres aussi, Mais à la fin de cette longue préparation, en Occident, souvent, le mercredi de la quatrième semaine de carême, il y avait ce qu'on appelait la tradition symbolique. C'est-à-dire qu'on leur dévoilait en public le symbole de foi. Tradere en latin, ça veut dire transmettre. D'où aussi trahir, quand on va livrer les livres saints pendant les persécutions. Mais c'est d'abord tradition, c'est transmettre. On leur transmettait le symbole et le Notre Père, la prière du Seigneur. Et ils devaient le mémoriser. Alors en fait, il y avait les exorcistes, les diacres, les aidaient à répéter le symbole. Ils devaient le savoir, l'apprendre par cœur. Et ensuite, ils devaient faire une reditio symboli. Alors ce symbole de foi, c'était un condensé de tout l'enseignement qu'ils avaient reçu pendant le carême. Et juste avant le baptême, souvent le samedi des vigiles des rameaux en Gaule, à Rome c'était le samedi saint, ils faisaient la reditio symboli. Et du Notre Père. C'est-à-dire qu'ils le proclamaient publiquement à l'Église. Si vous voyez un baptême actuel, parrain et marraine, ils disent le symbole pour l'enfant, ben c'est une reditio symboli. Ils le faisaient publiquement. Et c'est pour cela que tous les symboles baptismaux commencent par « je crois ». C'est un engagement personnel. Le credo n'était que baptismal. Il ne faisait absolument pas partie de la liturgie. C'est très simple. À la fin de la liturgie des catéchumènes, les diacres, dans tous les rites, ils disaient « catéchumènes sortez », que tous les catéchumènes sortaient. Qu'aucun catéchumène ne sorte, fermez les portes. Les portiers qui étaient au fond de l'église, ils fermaient les portes et les gardaient. Ne restait la liturgie eucharistique que les fidèles chrétiens. On n'avait donc pas du tout besoin de réciter le symbole. Alors, quand verra-t-on apparaître le symbole de foi dans les liturgies eucharistiques? Ce sera très tardif, 5e siècle, en Orient et par des hérétiques, parce qu'ils voulaient faire croire qu'ils étaient orthodoxes. Le premier à le faire, c'est un célèbre hérétique, Pierre le Foulon, évêque monophysite d'Antioche, en 476. C'est Pierre le Foulon aussi qui a introduit l'addition monophysite au Trisagion, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, qui a été crucifié pour nous. Addition qui existe toujours. Je l'ai entendu chanter par les coptes. Oui. Donc, on introduit très tardivement ce symbole de foi qui était celui de Nicée-Constantinople dans les liturgies pour faire croire qu'on est orthodoxe. Ensuite, les orthodoxes, ils l'adoptent et puis ça a duré jusqu'à maintenant. Mais les orthodoxes vont l'adopter d'une façon assez différente en Occident et en Orient. En Orient, c'est systématique. On dit toujours le symbole de foi, même lorsqu'il y a un baptême avant, ce qui est redondant. Et en Occident, on n'a pas fait comme ça. On a introduit le symbole uniquement dans les messes dominicales ordinaires. Jamais lors des fêtes, parce qu'on estimait que ce n'était pas nécessaire, que la fête était déjà assez longue, et jamais les jours ordinaires. Donc vous voyez, en Occident, ce n'était pas systématique. Alors, je vais vous parler du principal des symboles de foi. On appelle le symbole des apôtres, dit des apôtres, on appelle aussi quelquefois le credo romain. Alors, ce symbole, donc, que je vous lirai tout à l'heure, il était composé au IIe siècle, entre 150 et 200 à peu près. Il comportait 12 articles en mémoire des 12 apôtres. Au IIIe siècle, il est devenu universel en Occident. Il était simple, essentiellement christologique. Et à partir du IVe siècle seulement, on attribuera aux apôtres, on peut dire que la légende, c'est une légende, a été amplifiée essentiellement par Rufin d'Aquilée, qui sera un historien de l'Église et un grand traducteur, qui est mort en 410. C'est évidemment une légende. Les apôtres ne se sont pas réunis pour écrire ce symbole. Mais il fallait toujours rattacher tout aux apôtres, tous les sièges épiscopaux, tout ce qu'on faisait, on le rattachait aux apôtres. Alors, il y a eu de nombreuses variantes en Occident et en Orient, parce qu'il existe en latin et en grec, bien sûr. D'ailleurs, le grec étant très très utilisé jusqu'au fin 3e siècle, on disait toujours dans les deux langues, on demandait quelle est la langue des catéchumènes, soit le latin, soit le grec. N'oubliez pas que le latin était la langue officielle de l'Empire romain, jusque très 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 tard. Alors, il y a de nombreuses variantes. Les plus intéressantes sont dues à Nicétas de Remesiana, qui est un homme de Dacie, qui est mort après 414, qui a écrit de belles choses liturgiques, et surtout des grands théologiens gaulois, Saint Fébade d'Ajat, mort en 392, Victrice de Rouen, l'ami de Saint-Martin. Saint-Martin l'avait guéri d'une ophtalmie. Puis ensuite, un petit peu plus tard, à Saint Fausse de Riez, mort à la fin du 5e siècle, et Saint-Césaire d'Arles, 6e siècle. Alors, on le trouve dans les anciens missels et sacramentaires gaulois, notamment le Gallicanum Vetus et le missel de Bobbio. Le texte définitif du symbole des apôtres fut élaboré en Gaule vers 700-720. Vous voyez, c'est assez tardif, début du 8e siècle. Et il passa ensuite dans l'usage romain. C'est-à-dire les Gaulois l'ont transformé, ils ont fait des ajouts, et c'est passé ensuite dans l'usage romain. Alors, si vous regardez dans un missel romain d'avant Vatican II, vous le trouverez au rituel du baptême, pas à la messe. À la messe, c'est un symbole de Nicée-Constantinople, mais rituel du baptême. On trouve dans un manuscrit du 9e siècle le texte des trois symboles, le romain d'origine, le romain gallican et Nicée-Constantinople, ce qui montre bien que ce n'était pas absolu. Il y avait des variantes, il n'y avait pas de règle absolue. Alors, je vais quand même vous le dire. Tout le monde ne le connaît pas obligatoirement. Alors, je vais partir du romain ancien et je vais montrer les ajouts gaulois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Dans le texte grec, il n'y a pas le. Dans le texte grec, c'est Dieu, Père Tout-Puissant. Alors, dans le texte gaulois, on a ajouté Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. 2. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Pareil, de l'autre côté. 3. Qui est né du Saint-Esprit de la Vierge Marie. Alors, dans le texte gaulois, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Vous voyez, on a apporté une précision qui est intéressante. 4. A été crucifié sous Ponce Pilate et a été enseveli. C'est sepultus, enseveli. Dans le texte gaulois, c'est beaucoup plus précis. Qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et destiné aux enfers. C'est le seul symbole dans lequel on dit que le Christ est mort. C'est important. On n'osait pas le dire. 5. Et ressuscité des morts le troisième jour. Pareil de l'autre côté. Et monté aux cieux, idem. 7. Siège à la droite du Père. Siégé. Qui s'est assis à la droite du Père. Là, on a donné une précision en Gaule. Siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. 8. D'où il reviendra juger les vivants et les morts. Idem. Et au Saint-Esprit, idem. Il n'y a pas de formule spéciale pour le Saint-Esprit. On croit au Saint-Esprit. 10. À la Sainte Église. Alors, en Gaule, on précise. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints. 11. À la rémission des péchés. Idem. 12. À la résurrection de la chair. Et dans le texte gaulois, et à la vie éternelle. Amen. Donc, vous voyez, il y a 6 ajouts qui sont assez importants. Qui sont très utiles pour notre connaissance de la façon dont on baptisait. Alors, ce symbole dit des apôtres est le plus célèbre de tous les symboles baptismaux antérieurs à Nicée-Constantinople. Alors, d'ailleurs, dans les réunions œcuméniques, j'ai remarqué que les catholiques romains et les protestants aiment bien l'utiliser, parce qu'on ne parle pas de la procession du Saint-Esprit. Donc, c'est pratique. Ce sera le problème des symboles de foi. C'est des formules très courtes. Mais comme c'est très court, on ne précise pas, donc chacun peut interpréter. C'est la grandeur et la faiblesse des symboles de foi. C'est pour ça que ceux qui sont issus des conciles sont beaucoup plus développés. On ne voit pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le contenu des mots. Alors tout va changer avec la liberté de l'Église et l'apparition d'une redoutable hérésie, l'arianisme, au début du IVe siècle. Alors les symboles de foi vont évoluer et vont devenir des formules dogmatiques. Des armes dans un combat théologique beaucoup plus long, plus élaboré, et commencent tous par pisteomen, credimus, nous croyons. Vous voyez, ce n'est plus le catéchumène, c'est l'Église. Nous croyons. Alors, pour faire ça, le premier concile œcuménique, Nicée, il a élaboré la première partie du symbole, la plus longue, la partie christologique. Constantinople, 380, élaborer la partie finale qui est pneumatologique et ecclésiologique. Alors maintenant, je vais parler donc de l'œuvre des deux premiers conciles œcuméniques. Alors, il faut bien voir d'abord que c'est la conjoncture générale qui va changer les choses et qui va permettre la réunion du premier puis du deuxième concile œcuménique. Qu'est-ce que c'est cette conjoncture générale? C'est d'abord la paix de l'Église. Avant, on était persécutés. On réunissait des conciles. Des conciles locaux, des conciles secrets, pas des grands conciles. Surtout pas des conciles de tout l'Empire romain. Constantin triomphe en Occident en 312, à Rome, au Pont Milvius, et dès 313, il promulgue ce qu'on a appelé l'édit de Milan. C'est pas vraiment un édit, mais ça ne fait rien. c'est la liberté de religion pour tout le monde. C'était pas pro-chrétien, c'est, on avait le droit d'être chrétien, on avait le droit d'être païen. C'était extrêmement important, l'édit de Milan. Il est lui-même favorable au christianisme sans l'être. Il demeurera souverain pontife. Vous savez que le terme souverain pontife, pontifex maximus, fait partie de la titulature des empereurs romains. Ça n'a rien à voir avec le pape de Rome. C'était le grand prêtre de la religion païenne romaine. Constantin demeure souverain pontife. Ils demeureront souverain pontife jusqu'à Gratien, fin 4e siècle. Mais je reparlerai de Gratien tout à l'heure. Son co-empereur en Orient, évidemment, depuis Dioclétien, depuis la fin du 3e siècle, l'Empire était trop grand et surtout il y avait trop de barbares aux portes de l'Empire qui voulaient envahir l'Empire. On ne pouvait plus avoir un seul empereur, il y avait deux empereurs, ce qu'on appelle des Augustes, un en Orient et en Occident, et même ils se sont adjoints des vice-empereurs qu'on appelle des Césars, donc ils étaient quatre, ce qu'on appelait la tétrarchie. Alors à cette époque-là, il n'y a plus de tétrarchie, mais il y a au moins deux empereurs. Donc il va s'adjoindre, il s'arrange avec l'empereur Licinius en Orient. Licinius, qui est très très païen, reprend la persécution vers 320 et il est défait par Constantin en 324. Donc vous voyez, 313-324. Nicée, c'est l'année suivante. Il fallait qu'il y ait d'abord la paix religieuse. Donc, premier facteur. Deuxième facteur, l'Église est déchirée par les schismes. Les schismes font suite aux persécutions. À chaque fois qu'il y a eu une grande persécution, il y a eu des schismes. Et la persécution la plus violente, c'est celle de Dioclétien et de Maximien et des autres, hein, bien sûr, 303-304. C'est ce qu'on appelle la grande persécution. Aussitôt après une persécution, il y a des rigoristes qui disent « Non, non, il faut être très sévère avec ceux qui ont chuté, etc. » Et l'Église, on va dire normale, l'Église officielle dit « Il faut quand même pas être trop dur, il faut pouvoir les réintégrer à l'Église. » Donc il y a des schismes. Oui, il y a eu trois schismes. Un schisme à Rome qui était de courte durée, un schisme grave en Afrique, c'est le schisme donatiste, mais là il n'interfère pas avec notre problème du credo, donc je n'en parle pas. Le schisme le plus grave, c'est le schisme mélésien en Égypte, avec un évêque qui s'appelle Mélès de Nicopolis. Là, il aura des conséquences graves, parce que ces schismatiques feront le lit de l'hérésie. Oui. Et souvent, les hérétiques viendront du milieu schismatique. Donc, ça, c'est une chose très difficile. C'est une schisme. Alors, ça a l'air moins grave qu'une hérésie, parce que c'est une rupture de communion. C'est très, très difficile à résoudre, parce que la plupart des schismes sont liés à la psychologie humaine. Très, très long. Le schisme d'Antioche, dont je ne parlerai pratiquement pas, parce qu'il ne va pas nous concerner directement, il a duré 120 ans. C'est une schisme. Les hérésies, une fois qu'on a dit « Non, ça c'est la vérité », bon, point final. Mais un schisme, ça dure, parce que c'est lié à la psychologie, c'est lié à la société, c'est lié parfois à la politique. Et enfin, bien sûr, j'y viens, parmi les facteurs, il y a une nouvelle hérésie qui s'appelle l'arianisme. Alors l'arianisme, il y a eu beaucoup d'hérésies avant, c'est la plus terrible. L'arianisme va pourrir la vie de l'Église pendant quasiment un siècle, on va dire quasiment tout le 4e siècle. Alors il faut en dire un mot, sinon on ne peut pas comprendre, au fond, pourquoi on a dû lutter. Arius, prêtre égyptien, grand ascète, qui avait adhéré au schisme mélésien. Vous avez remarqué peut-être que tous les grands hérésiarques sont des grands ascètes. Parce que la plus grande des ascètes, c'est de mourir à soi-même, c'est de mourir à ses pensées. On peut s'abstenir de bons aliments, de vie sexuelle, de ceci, de cela. Mais la plus grande des ascèses est intérieure. C'est mourir à ses propres pensées. Grand ascète, un grand bonhomme, très grande barbe, des vieux vêtements, plein de vierges consacrées autour de lui. Arius commence à prêcher une doctrine nouvelle dans les années 318, sous Licinius, empereur qui va reprendre la persécution. On est en Orient. Alors, c'était quoi l'essentiel de sa doctrine? C'est une doctrine concernant le logos, le verbe. Selon lui, le logos était tiré du néant. Je vous cite la phrase célèbre, « Il fut un temps où il n'était pas », d'ailleurs qui ne vient pas de lui. Le logos est une créature. Seul le Père est vraiment Dieu. Puis ce logos qui est une créature parfaite, le Père crée une créature parfaite, le logos, son fils, le verbe, et ce logos, qui est une créature parfaite, crée une autre créature parfaite, le Saint-Esprit.
Il y a bien une trinité. Mais c'est une trinité de personnes différentes selon la nature et hiérarchisées. Vous savez, un père, un fils qui est créé, un Saint-Esprit qui en plus est créé par une créature. On se demande bien comment d'ailleurs c'est possible logiquement, mais bon, peu importe. Alors, le fils, il s'est incarné, non, l'incarnation et la rédemption, alors l'incarnation et la rédemption du fils sont relatifs, puisqu'il n'est pas Dieu, et ce ne sont que des exemples proposés aux fidèles. Alors, l'évêque de l'époque est saint Alexandre d'Alexandrie, qui est un grand, grand orthodoxe. Saint Alexandre désavoue bien sûr son prêtre. Arius était prêtre dans une paroisse de cette immense ville qu'était Alexandrie, une ville d'un million d'habitants, prêtre de la paroisse de Bocalis. Il y avait un clergé considérable à Alexandrie. Donc, Alexandre d'Alexandrie le désavoue. Il le fait condamner par un concile égyptien dans les années 320-323. Ce concile dépose deux évêques. Il y avait quand même deux évêques égyptiens qui défendaient Arius. Donc, passons sur les noms. C'est des gens sans intérêt. Arius ne se soumet pas. Il cherche des appuis hors d'Égypte. Et il va en trouver des appuis. Alors, il cherche des appuis auprès d'un très grand intellectuel de Palestine qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Césarée de Palestine, c'est actuellement Caesarie, c'est entre Haïfa et Tel Aviv, hein, sur la côte de l'Atlantique, la côte de la Méditerranée. Alors, Césarée de Palestine, hein, il y a des villes de Césarée dans toutes les provinces romaines, en mémoire de César, bien sûr. C'est très important, parce que la ville de Jérusalem n'est plus rien, depuis le désastre de 70 avec Vespasien. Donc l'évêque de Jérusalem est tout petit à côté de celui de Césarée de Palestine. D'ailleurs, Jérusalem s'appelle Aelia Capitolina, ça ne s'appelle plus Jérusalem. Donc l'évêque de Césarée de Palestine, Eusèbe de Césarée, qui est un grand intellectuel, qui est un des pères de l'histoire de l'Église, et il entre aussi en relation épistolaire avec l'évêque de la ville impériale, Eusèbe de Nicomédie. Alors ça, c'est une chose très très grave. Il entre en relation avec Eusèbe de Nicomédie, qui lui-même, il est parent éloigné de la famille impériale, confident de la demi-sœur de l'empereur Constantin, qui s'appelle Constantia, qui est l'épouse de Licinius, un empereur d'Orient, Licinius. Et les deux, Arius et Eusèbe de Nicomédie, peut-être Eusèbe de Césarée, mais on n'en est pas sûr, ont été des disciples d'un hérésiarque célèbre qui s'appelle Lucien d'Antioche, qui est le père de l'hérésie. La phrase « Il y eut un temps où le Verbe n'était pas », c'est Lucien d'Antioche. Mais Lucien d'Antioche est mort pendant la grande persécution, en 303, je crois. Il a été canonisé en tant que martyr. Voyez, c'est un hérésiarque terrible, redoutable. Alors, Arius n'en est mort pas, s'adresse à Eusèbe de Césarée, puis ensuite Eusèbe de Nicomédie, ils entrent en relation, et la propagande arienne se répand dans tout l'Orient. Constantin va à Licinius en 324, ce qui est bien. Alors, Constantin se rend compte que ça commence à s'agiter du côté des chrétiens, et il envoie son conseiller ecclésiastique, Ossius de Cordoue, en mission en Égypte. Alors, c'est Ossius de Cordoue. Alors, Cordoue, c'est la Bétique romaine, hein, c'est l'Andalousie actuelle. C'est un grand siège épiscopal. C'est Ossius de Cordoue, c'est vraiment un grand bonhomme. C'est un grand, grand évêque orthodoxe. Il n'a pas été canonisé. C'est vraiment quelqu'un de très, très important qui vient jouer un rôle très important. À partir de 313, il devient le conseiller ecclésiastique de Constantin. Alors, Constantin lui dit, va voir un peu ce qui se passe en Égypte. Quand même, ça s'agite beaucoup. Il y avait le schisme vénétien et Arius. Constantin, toujours très préoccupé de la paix civile. On ne regarde pas le contenu, mais c'est la paix. Alors, Ossius, en Égypte, puis voilà, il dit qu'il n'y a rien à faire. Une circonstance va accélérer les événements. Fin 324, l'évêque d'Antioche meurt. C'était Philogone d'Antioche. Il y a un concile local qui se réunit, probablement début 325. Et on va élire un personnage extrêmement important, Eustathe de Bérée, qui va devenir Eustathe d'Antioche. Alors, c'est un orthodoxe convaincu, un grand, grand théologien, Eustathe d'Antioche. Et on profite du concile pour condamner l'hérésie d'Arius. Donc on voit progressivement se mettre en place un front anti-arien avec trois grands personnages dont il faut absolument retenir les noms. C'est les trois colonnes de l'orthodoxie du concile de Nicée. Alexandre d'Alexandrie, Eustathe d'Antioche et Machaire de Jérusalem. Trois géants, trois grandes lumières plus quelqu'un qui est encore petit à l'époque, Athanase. Athanase est le diacre d'Alexandre d'Alexandrie, et en fait son secrétaire conseiller, si vous voulez. Athanase a déjà un grand rôle, mais pas en tant qu'évêque. Ils envoient partout des lettres synodales, ils en envoient aussi à l'évêque de Rome, et on pense que c'est à l'occasion de ce concile d'Antioche qu'on a imaginé réunir un très grand concile, un concile de tout l'Empire. Donc c'est ce qui va se passer. Donc l'empereur Constantin, convaincu probablement par Eusius de Cordoue, il convoque un concile universel, ça voulait dire de tout l'Empire romain, œcuménique. Ce concile se réunit en 325. Alors, on a hésité, hein, parce que Constantinople n'existe pas. Enfin, Byzance existe, mais ne deviendra capitale qu'en 330, a inauguré son annulement. L'empereur réside à Nicomédie. Nicomédie, c'est en Bithynie. Alors, c'est à peu près en face de Byzance, et c'est du côté asiatique, si vous voulez. Donc, il y a une ville très importante, Nicomédie. On hésite un peu, parce que dans la ville impériale, on ne sait jamais, il peut y avoir des troubles. Non, on choisit une petite ville qui ne se trouve pas loin, Nicée. Par malheur, l'évêque de Nicée est un rien, Théognise de Nicée. Enfin bon, tant pis. Mais c'est pas loin, à 50 km de Nicomédie. Donc, on invite tous les évêques de l'univers. Il y a beaucoup d'évêques qui viennent. Alors, l'empereur permet aux évêques d'utiliser ce qu'on appelle le cursus publicus, c'est la poste, si vous voulez. C'est un système de transport très sophistiqué pour l'époque, avec des voitures et des chevaux, etc. Donc, c'est aux frais de l'empereur. Les évêques sont logés aux frais de l'empereur. La tradition dit qu'il y a 318 évêques de tout l'Empire, tradition qui nous vient de Saint-Hilaire de Poitiers, qui est quand même une autorité dans le domaine. Les historiens ont relevé 220 noms d'évêques, ce qui est déjà beaucoup, et dedans il y a aussi des corps évêques, qui sont l'équivalent des évêques vicaires. Ils viennent surtout de l'Orient, grosse majorité, il y a quand même quelques évêques d'Occident, et il y a un évêque gaulois, alléluia, Nicaise de Die. Il y a un évêque gaulois, il y a un évêque italien, il y a un évêque africain, et il y a quand même deux ou trois évêques qui ne sont pas de l'Empire, il y a un évêque qui vient du Caucase, et un évêque qui vient de Perse. Alors, ce concile, on pense qu'il a été présidé par Eusius de Cordoue. Alors, il est très, très, très important parce que j'estime que c'est le concile fondateur de l'Église. Il y avait eu un grand concile en 314 en Occident, en Arles, mais ça ne concernait que la partie occidentale de l'Empire. On avait discuté que de problèmes ecclésiastiques, donc que de mesures disciplinaires, qui étaient importantes, bien sûr, qu'on va reprendre à Nicée. On n'avait pas abordé les questions dogmatiques. Il est extrêmement important, concile fondateur de l'Église. Beaucoup de questions importantes ont été abordées, mais la première et la principale, c'est Arius et sa doctrine. Alors, on convoque Arius. Alors, l'empereur ouvre solennellement le concile, il est entièrement habillé de vêtements d'or, il a le manteau de pourpre des empereurs, c'est quelque chose de fantastique. Ces évêques-là, 20 ans avant, ils étaient persécutés, donc ils n'en reviennent pas. Ils disent, on est dans le ciel, si vous voulez. C'est quelque chose d'inimaginable, vous voyez. On leur rend les honneurs, etc. L'empereur, il avait rêvé, Constantin, de Saint-Paphnus d'Égypte, qui est un évêque égyptien qui avait perdu un œil dans la persécution et puis un mollet. Il avait rêvé de Saint-Paphnus. Il le voit arriver, il s'approche, il lui baise l'œil qu'il avait perdu pour le nom du Christ. Vous voyez, c'est des choses assez extraordinaires. Alors, le concile se réunit, évidemment, on fait venir Arius et il y a des discussions très serrées. La majorité du concile est orthodoxe, mais il y a une minorité arienne qui est très agressive. Et puis il y a une espèce de tiers parti arien dirigé par Eusèbe de Nicomédie. En fait, il est un arien pur, Eusèbe de Nicomédie. C'est un homme extrêmement douteux moralement. C'est un intrigant, c'est un évêque de cour. C'est pas du tout quelqu'un de bien, si on n'est pas quelqu'un d'honnête. Mais Eusèbe de Nicomédie est très très fin, très intelligent. Il sait qu'il ne faut pas prendre de front l'empereur et que si l'on proclame des formules trop évidemment hétérodoxe, on n'emportera pas de morceaux. Donc une espèce de tiers parti qu'on appelle les Eusébiens. Eusèbe de Nicomédie, pas Eusèbe de Césarée. Alors, les Eusébiens se battent pour qu'on s'en tienne aux expressions bibliques. Le logos est de Dieu. Oui, voilà, c'est oui, bien sûr, ça ne fait de mal à personne. Oui, mais on ne précise pas le rapport entre le père et le fils. Oui. Donc ça, c'est la grande tactique. Parce qu'au fond, les expressions bibliques, on peut les interpréter comme on veut. Donc les pères se battent. Ensuite, il y a une ultime tentative d'Eusèbe de Césarée. C'est un grand intellectuel, très fin. Alors, Eusèbe de Césarée propose un symbole, qui est peut-être celui de sa ville, peut-être il l'a écrit, dans lequel il est dit le logos de Dieu, un peu plus loin, le premier-né de toutes les créatures. Oui, c'est une expression biblique. Une expression biblique. Mais ça peut s'interpréter de façon arienne. Attendez. Je vais vous citer. Est-ce qu'on a le temps? Oui, j'ai le temps de les lire,
oui, oui.
Les symboles. Eusèbe de Césarée. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles, et au Seigneur Jésus-Christ, car il est le Logos de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vie de la vie, son Fils unique, le premier-né de toutes les créatures. Ah, ça peut s'interpréter orthodoxement, ça peut s'interpréter de façon arienne, vous voyez. Point. Engendré du Père avant tous les temps, par qui tout a été créé, qui s'est incarné pour nous racheter, qui a vécu et souffert parmi les hommes, et ressuscité le troisième jour, et retourné vers le Père, et reviendra un jour dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. Nous croyons que chacun de ces trois est et subsiste. Le Père est vraiment Père, le Fils est vraiment Fils, le Saint-Esprit est vraiment Saint-Esprit. Ainsi, comme l'a dit notre Seigneur lorsqu'il envoya ses disciples prêcher, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, voilà, ça paraît assez gentil, mais on a retiré le terme dont je vais vous parler maintenant, si vous voulez. Voilà. Alors, les pères ne sont pas satisfaits de cela, et les pères vont proposer un symbole dans lequel...
On ne t'entend pas très bien, tu peux faire un peu plus fort et plus lentement.
Voilà, alors, je vais faire mieux. Alors, les pères vont proposer un symbole dans lequel on dit expressément ceci. Le Fils est de la substance de Dieu. Ectes osias tou Theo. Le Fils est de la substance de Dieu. Substance étant pris dans le sens de nature. Je vais parler tout à l'heure de la terminologie. Et enfin, voyant que les Ariens résistent, on va insister, on va créer ce fameux, pas créer, utiliser un terme qui va faire couler tellement d'encre. Il rajoute le terme « homoousios ». En grec, c'est de la même aussi, de la même nature, consubstantielle, pour couper court à toute interprétation douteuse, bien que le terme ne fût point scripturaire. Alors, les historiens racontent que l'empereur s'est impliqué lui-même, et que Constantin a dit « oui, oui, il faut le terme « homoousios ». Donc, l'arianisme est condamné, les évêques ariens seront déposés, un symbole de foi est proclamé. C'est le symbole de Nicée, qui concernait essentiellement le Christ, mais il faut bien dire qu'il est normal que les symboles de foi soient surtout christologiques, car nous ne savons rien du Père en tant que tel, et on ne sait rien du Saint-Esprit. Tout ce que nous savons de l'Évangile, c'est du Christ. Donc, il est normal que les symboles soient surtout christologiques. Alors, ce symbole... Saint-Hilaire dit qu'on le doit au diacre Athanase, le secrétaire d'Alexandre d'Alexandrie. Athanase dit qu'on le doit au sus de Cordoue. Et Saint-Basile nous donne une information intéressante. Saint-Basile, qui est beaucoup plus tard, hein, qui lui sera concerné par le deuxième concile œcuménique, il dit qu'en fait, le diacre Hermogène de Césarée de Cappadoce, donc la ville dont il sera l'évêque, a écrit et lu le symbole de foi. Alors, je vais... vous lire celui de Nicée. Voilà. Donc, il y a le symbole de Nicée, pas Constantinople. Et après, je vous parlerai un peu de terminologie grecque et latine. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles, et en un Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, seul engendré du Père, monogène, hein, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père. Ouais, donc la précision très importante. Alors, c'est une expression tout à fait athanasienne, de la substance du Père. On le retrouvait beaucoup dans les ouvrages d'Athanase. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de la même substance que le Père. Homoousios, de la même substance, de la même nature que le Père. Par qui tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, qui est descendu des cieux pour nous, pour notre salut, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, on ne dit pas qu'il est mort. Vous avez remarqué qu'aucun symbole n'est absolu. Il manque le fait qu'il soit mort. Probablement, on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire à cause des diverses hérésies. Et ressuscité le troisième jour, et monté aux cieux, il viendra juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit, point. On ajoute, ceux qui disent, il y a eu un temps où il n'était pas, où il n'était pas avant d'avoir été engendré, il est né du néant, entre parenthèses, il a été créé, ou qui soutiennent qu'il est d'une autre, écoutez bien, je vais en parler tout à l'heure, d'une autre hypostase ou d'une autre substance, aussi que le Père, ou que le Fils de Dieu est créé, qu'il n'est pas immuable, soumis au changement, l'Église catholique les anathématise. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, avant de vous parler de la terminologie, alors évidemment, il était en grec, hein, je vous le donne dans la traduction française de Félix Leclerc, c'est que le texte latin, nous l'avons par Saint-Hilaire, le texte latin est intéressant parce que Saint-Hilaire, il indique le terme grec. Alors, je vous dis juste la phrase de Saint-Hilaire. « Unius substantiae cum patre, quod gresse dicunt homo usios. » Il donne le mot grec pour bien marteler les choses. Alors, ce credo, c'est à peu près la première partie de nos symboles de foi. C'est la partie christologique. Alors, le grand problème, c'est qu'à cette époque, on n'avait pas encore préciser le sens des termes. On sait que c'est extrêmement difficile de trouver des termes humains qui nous permettent d'exprimer les réalités divines. Et on ne peut pas s'en tenir à l'étymologie seule. L'étymologie, ça ne suffit pas. Parce que ça peut s'interpréter dans les deux sens. Donc il faut non seulement qu'on trouve un terme, mais qu'on dise « voilà le sens de ce terme ». Il faut faire une périphrase. Parce que les réalités divines sont extrêmement difficiles à exprimer. Et à cette époque, le vocabulaire n'est pas fixé. Alors, je vais vous citer le cas, évidemment, le plus flagrant. Vous avez vu que dans l'anathème final, il y a une confusion entre hypostase et substance. Alors, je vais dire un mot des deux. Chez les latins, chez les grecs, nature et personne. Chez les latins, nature, on disait soit essentia, qui est formé sur essere, le verbe être, soit substantia. On utilisait les deux, mais ça voulait dire la nature. Chez les Grecs, c'était ousia, qui est formé sur le verbe être grec. Personne à personne. Chez les Latins, il n'y a pas d'ambiguïté. Persona, personne. Mais la difficulté, c'est que chez les Grecs, on va finir par dire hypostasis. Mais hypostasis, dans la philosophie grecque païenne, avait plutôt le sens de nature. Et comme on ne voulait pas utiliser le terme grec prosopon, personne, je vais vous dire pourquoi. Progressivement, on utilisait le terme hypostasis. On ne voulait pas utiliser le terme prosopon pour deux raisons. D'abord, c'était la personne, mais c'était le masque de théâtre, donc c'était fâcheux, puisque c'est ce qui cache le visage. Mais surtout, ce terme avait été utilisé par des hérétiques, par les Sabelliens du IIIe siècle. Et finalement, on va adopter hypostasis. Alors qu'hypostasis, c'est exactement la traduction grecque du latin substantia. Vous avez le même mot en latin et en grec. En latin, il veut dire nature, et en grec, il va finir par vouloir dire personne. C'est très délicat. On a une très belle lettre de Saint Jérôme à la fin du IVe siècle. Il se met en colère. Jérôme, c'est un homme extrêmement colérique. Il dit, comment on va me dire, frère, qu'il y a trois natures, c'est un scandale. C'est parce que le vocabulaire a évolué. Oui, c'était très difficile. Et l'anathème final est très, très ambigu. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans l'anathème final, il y a une confusion entre, effectivement, on utilise les deux termes. Et d'ailleurs, Saint Athanase, dans ses œuvres, souvent utilisera les deux termes. Il dira l'un ou l'autre. Ceux qui soutiennent qu'il est d'une autre hypostase ou d'une autre substance. Oui, voilà. C'est ambigu. Voilà. Ils sont dans la tête. Alors, on pourrait se dire, oh, ben ça, c'est vraiment bien. Le concile a tranché. Enfin, ouf, on est tranquille. Mais en fait, comme il se passera dans pratiquement chaque concile œcuménique, après, c'est l'explosion. Après, c'est la guerre. Parce que les gens vont être plus ou moins contraints d'accepter, et après, ça explose. C'est exactement ce qui va se passer. On va avoir plus d'un demi-siècle de lutte, de combat et de violence, avec des morts, entre 325 et 380. Alors, je vais parler un peu de cette période qui est extrêmement complexe. Évidemment, j'ai essayé de la simplifier. D'abord, le rôle de l'empereur. Vous avez vu que l'empereur, il avait le beau rôle, là. Constantin s'est très bien conduit. Anicet. Mais l'empereur Constantin était un homme influençable et changeant. Il subira une tragédie familiale terrible parce qu'il s'était laissé influencer. Il avait fait quand même assassiner son fils aîné et sa femme parce qu'il s'était laissé influencer. Ouais, c'est influençable, il change d'avis. Et le fait que l'empereur intervienne dans les affaires d'église, surtout les affaires dogmatiques, quand ce n'est que disciplinaire encore, quand ça concerne les bâtiments, mais dans les affaires dogmatiques, c'est très très dangereux pour l'avenir. C'est un précédent qui est fort dangereux. Et par ailleurs, l'arianisme va évoluer, et à cette époque, l'arianisme évolue vers une aggravation. On devient de plus en plus arien. Alors, on va dire un mot de tout cela. En 328, Athanase succède à Alexandre d'Alexandrie. Alors, Athanase, devenu évêque d'Alexandrie, il a été le flambeau de la foi orthodoxe jusqu'à sa mort, jusqu'en 373. Le deuxième grand personnage, après, ça sera Saint Basile. Retenez ceci, 328-373, le flambeau de l'orthodoxie, c'est Athanase. Ça sent si la bête noire des empereurs. Il sera exilé 5 fois. La tactique du clan arien de Bithynie, quand on dit le clan arien de Bithynie, se faisait d'une comédie. On ne peut pas aller à l'encontre des décisions de Nicée, l'empereur les a approuvées. C'est dangereux parce qu'on va être exilé. Il y a quand même eu beaucoup d'évêques exilés. On perd sa charge, on perd ses fonctions, on perd ses avantages matériels, c'est quand même très embêtant. Ils sont allés pleurer auprès de Constantin. Zeb de Nicomédie écrit une lettre lamentable à Constantin. Constantin, publiquement, lui a reproché sa lâcheté. Il lui a dit, ne me retire pas ma fonction. C'est risqué. Alors, les Eusébiens se disent, on ne peut pas aller à l'encontre des décisions de Nicée, donc on va attaquer les défenseurs de Nicée. Bon, ils ont essayé du côté d'Athanase, ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils vont s'attaquer à Eustade d'Antioche. Ils vont s'attaquer violemment. On va accuser les Nicéens d'être devenus des Sabelliens. Et on va accuser spécialement Eustade d'Antioche. Alors, qu'est-ce que c'est que les Sabelliens? C'est une hérésie du fin 2e, début 3e siècle, un prêtre romain qui s'appelait Sabellius. Alors, il disait ceci, le père et le fils sont un même être, mais avec des modes d'existence différents. Il disait, il y a un seul Dieu, mais il se manifeste comme père dans l'Ancien Testament, il se manifeste comme fils avec l'incarnation, il se manifeste comme Saint-Esprit dans le point de côte. Mais c'est le même Dieu. Donc il n'y a pas de distinction des personnes. On a appelé ça aussi une hérésie modaliste, parce que c'est des modes d'être, si vous voulez. Alors c'était condamné par le pape Calixte. Alors, les Ariens disent, ouais, mais ce sont des Sabelliens, ce sont des hérétiques. Puisqu'il n'y a pas de distinction de nature entre le père et le fils. Pas de distinction de personne non plus. Voilà. Et ils arrivent, avec beaucoup, beaucoup d'intrigue, ils arrivent à réunir un pseudo-concile à Antioche en 330. Alors, Eusèbe de Césarée est dans le coup, hein, bien sûr. Hein. Ça se passe à Antioche, évidemment. En 330, avec l'accord de Constantin, ils arrivent à déposer Eustade d'Antioche. Première victoire des Ariens. Eustade d'Antioche, qui est une des colonnes de l'orthodoxie. On va l'accuser d'être sabellien, on va l'accuser d'être allé avec des femmes, etc. On va produire une courtisane au concile. Mais c'était pas vrai. Elle avait couché avec un Eustade qui était forgeron. Il n'était pas l'évêque de la ville, bien sûr. Mais ça, ce sont des procédés classiques quand on veut détruire quelqu'un. Donc ils arrivent à déposer Eustade d'Antioche. Avec l'accord de l'empereur Constantin. Et les Méléciens recommencent à s'agiter contre Athanase en Égypte. Je vous ai dit, les schistes, ils écrivent à l'empereur. Les schismatiques, ils font appel à l'empereur. Ouais, on est incompris, on nous traite mal. Les empereurs vont intervenir. Alors, l'empereur, lui, Constantin, il est intéressé par une seule chose, la paix, à n'importe quel prix. Parce que l'empereur voulait célébrer avec magnificence ses 30 ans de règne. Nicée 325, c'était ses 25 ans de règne, mais 330, c'est 30 ans de règne. Il voulait faire quelque chose de très très beau. Alors, il y a deux empêcheurs de tourner en rond. Oui, d'un point de vue politique, il y a Arius, puis Athanase. Bon, il va falloir réduire les deux. On veut la paix, mais la paix extérieure. Alors, Arius, conseillé par Eusèbe de Nicomédie, fait semblant de s'incliner, il est convoqué à Nicomédie, et on va lui faire signer une profession de foi. Qui est orthodoxe, bien sûr. symbole de Nicée. Alors, vous voyez l'astuce des hérétiques. Il dit « Je crois dans ce qui est écrit ». Il signe. Mais il avait dissimulé sur son vêtement sa propre profession de foi. Il avait triché. Donc il croyait dans ce qu'il avait sous son manteau. Il a signé. On en prend content. Il signe le symbole de Nicée. Donc, côté Arius, on est tranquille. On réunit un concile en Syrie à Tyr en 335, pseudo-concile que les historiens appellent le brigandage de Tyr, où il n'y a que des pro-ariens. Les 50 évêques égyptiens sont refusés par l'empereur. Et Athanase est accablé de tous les maux. Athanase est envoyé en exil. À Trèves, en Gaule, 335. Donc vous voyez ce qui se passe 10 ans après le concile de Nicée. Arius est réhabilité par l'empereur et Athanase est envoyé en exil. C'est quand même une chose assez terrible. Et pourtant, saint Antoine d'Égypte, le grand saint Antoine, qui était presque centenaire, avait écrit à l'empereur. Mais l'empereur n'en a pas tenu compte. Arius est réhabilité, réintégré. Mais vous voyez, il y a quand même un jugement de Dieu. Il y a quand même un jugement de Dieu. La veille du jour où Arius devait être réadmis à la communion, on est à Constantinople, il meurt dans des latrines publiques. Et il va mourir dans ses propres excréments. Les pères disent dans un flux de ventre et de sang. Les pères de l'Église ont dit c'est un jugement de Dieu. Et non, il n'a pas pu être intégré à la communion. Et les pères ont dit ses excréments, c'était sa pensée sur le Christ. Alors, comme il arrive très très souvent dans toute cette histoire, puis on va dire dans l'histoire de l'Église en général, même parfois dans nos vies, quand une situation est complètement bloquée, Dieu envoie des événements qui vont débloquer les choses, qui sont souvent des événements tragiques. Mais en l'occurrence, c'est la mort de Constantin en 337. Alors, Constantin meurt en 337, il n'était pas baptisé, il tombe très gravement malade, il se fait baptiser la veille de sa mort par un hérétique, par Eusèbe de Nicomédie. Alors, si vous tenez compte du fait qu'il avait fait assassiner son fils aîné Crispus, fait bouillonner sa femme Fausta, qu'il a réhabilité Arius, qu'il était baptisé à la veille de sa mort par un hérétique, on se demande comment l'Église d'Orient a pu le canoniser, ce qui est quand même assez étrange. Alors, ses fils se font la guerre, il y avait 3 fils, puisqu'il avait fait assassiner le meilleur, Crispus, qui était un très bon général. À cause des ragots de sa femme, Fausta, oui, était un homme faible qui s'est influencé. Alors, il va en rester 2 en lice, Constance II en Orient, qui est un pro-arien, et Constant en Occident, qui lui est neutre ou favorable aux orthodoxes. Et Constance II va persécuter les orthodoxes. Alors, on réunit un concile à Antioche en 341 parce que l'empereur Constance avait fait bâtir une belle église qu'on appelait l'église d'or. Il devait y avoir la dédicace. C'est pour ça que ce concile est appelé aussi concile des Ankaini. Ankaini, c'est fait de la dédicace en grec. On va élaborer 4 formules de foi. Oui, 4 formules de foi, dont une aura une très longue vie. C'est ce qu'on appelle le 4e symbole d'Antioche. Bon, je crois que je vais quand même vous le lire. Nous croyons, 4e formule d'Antioche. Nous croyons dans celle Dieu Père Tout-Puissant, auteur et créateur de toutes choses, de qui provient toute paternité dans le ciel et sur la terre, et en son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, engendré du Père avant tous les temps, de Dieu, lumière de lumière, par qui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, etc., etc., etc. Enseveli, ressuscité le 3e jour, etc. Il reviendra à la fin des temps, rendra chacun selon ses œuvres, dont le royaume restera inébranlable pour l'éternité. Et au Saint-Esprit, c'est-à-dire au paraclet, qu'il avait promis à ses apôtres, etc. Quant à ceux, alors attendez, ça c'est la fin, ça a l'air bien gentil. Quant à ceux qui disent le Fils est né du néant ou d'une autre hypostase, là on le prend dans le sens de substance, d'une autre aussi, et non pas de Dieu, ceux qui disent qu'il y avait un temps où il n'était pas, l'Église catholique les regarde comme étrangers. Bon, on peut se dire, oui, c'est pas mal, c'est pas méchant. Mais on a retiré tous les termes. On a retiré homoousios. On a retiré que le Fils était tiré de la même substance que le Père. Voilà. On a retiré tout ce qui faisait difficulté. Ça, elle aura une très très longue vie, cette 4e formule d'Antioche. Ensuite, on réunit un grand concile à Sardique, qui ne sert pas à grand-chose. En 343, c'est Sofia en Bulgarie, présidée par Ossius, c'est un échec. Ensuite, il y a un drame historique, c'est que l'empereur Constance II demeure le seul empereur. Donc les deux empereurs se font la guerre. L'empereur Constant va se suicider à Aisne. En 353, Constance II demeure son empereur. Et il avait persécuté surtout en Orient. Il était empereur d'Orient, il va persécuter en Occident. Donc il va y avoir des grandes persécutions en Occident. Trois conciles pro-ariens sont réunis. Arles, 353. Milan, 355. Béziers, 356. On obligeait, sous la menace, les évêques à signer la condamnation d'Athanase. Vous signez la condamnation d'Athanase, vous êtes exilé. Tous les réfractaires étaient exilés. Alors, le plus célèbre de tous les réfractaires, c'est Saint-Hilaire de Poitiers. Concile de Béziers, 356. Il est le champion de l'orthodoxie. On a dit de lui qu'il était l'Athanase de l'Occident. Saint-Hilaire dit non, exilé en Phrygie. Et il y aura même le vieil Ossius de Cordoue, qui avait plus de 100 ans, exilé. Mais Ossius de Cordoue a fait une belle réponse à Constance II. Il lui a dit, il lui a écrit, « Ne te mêle pas des affaires de l'Église. » C'était courageux, mais quand même, il était exilé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un renouveau de la dogmatique arienne dans les deux sens. Dans le sens d'une aggravation et dans le sens d'une édulcoration. Alors l'aggravation, c'est laquelle? Apparaît un nouveau parti d'Arien qu'on va appeler les Anoméens. Tête de file, A.S. d'Antioche. Pour les Anoméens, le fils est non semblable au père, et c'est même une injure que d'oser dire qu'il puisse être semblable au père. Ouais, c'est des Ariens purs et durs, les Anoméens. C'est vraiment des hérétiques forcenés. Et puis, il y aura une édulcoration par réaction contre les Anoméens, si vous voulez. Il y a quand même un certain nombre d'Ariens qui vont se dire, non mais là, on va quand même trop loin. Alors, ils vont dire, ce qu'on appellera les semi-Ariens, que le fils est non pas homoousios, de même nature, mais regardez la subtilité de la langue grecque, homoousios, ou homéousios, en prononciation erasmienne. Homoousios, en prononciation grecque classique, pardon. Homoousios, ça veut dire semblable. Donc, vous voyez, c'est pas de même nature, mais c'est de nature semblable. Ce qu'on a appelé les homéousiens, tête de file, Basile d'Ancyre. Ancyre, c'est Ankara, en Galatie. Alors, les homéousiens, qui sont des Ariens édulcorés, on va dire, essaient de persuader Constance II de réunir un grand concile universel pour entériner la nouvelle ligne théologique qui avait été définie au concile d'Ancyre, en 358. Mais en 358, il y a un grand tremblement de terre qui détruit Nicomédie, ça arrivait très souvent. Nicomédie qui est quand même résidence impériale, même si l'empereur réside plus souvent à Constantinople. Et les Anoméens profitent de ce drame pour persuader Constance II de réunir non pas un concile, mais deux conciles. Un Orient, un Occident. Ils disent, on va diviser les évêques, c'est quand même plus pratique. C'était une chose extrêmement astucieuse. Alors les deux clans, les Anoméens et les Éméousiens, se mettent quand même d'accord sur le fait de préparer une formule de foi, au fond, qui pourrait convenir à tout le monde, qui ne serait pas trop ouvertement hérétique. Sinon, évidemment, ça ne passera pas. Donc, il prépare une formule de foi. C'est confié à un homme qui s'appelle Marc d'Arétus. Cette formule de foi, c'est la quatrième formule de Sirmium, qu'on appelle aussi le credo daté. Alors, c'est amusant, parce que simplement, sur le manuscrit, on a la date, 22 mai 359. Quatrième formule de Sirmium. Il y a eu 4 ou 5 conciles à Sirmium, qui était une résidence impériale qui se trouvait en Dacie. Les empereurs résidaient souvent parce qu'ils venaient protéger la frontière. Les barbares étaient juste de l'autre côté du Danube. Quatrième formule de Sirmium, qu'on appelle le credo daté. Voilà. Nous croyons en un seul vrai Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur et Démiurge de toutes choses, en un Fils unique de Dieu, engendré du Père d'une manière impassible, avant quoi que ce soit qu'on puisse concevoir, siècle, commencement, temps et n'importe quelle substance imaginable. Unique engendré, Dieu de Dieu, en voilà la formule importante, semblable au Père, homoion. On n'a plus homoiosios, il est simplement homoïode, semblable. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on met derrière semblable? Semblable au Père, qu'il a engendré conformément à la Sainte Écriture et dont personne ne connaît la génération si ce n'est le Père qui l'a engendré. On ajoute, mais comme le mot « oussia » employé ingénument par les Pères a été mal compris des fidèles et les a scandalisés, on disait évidemment que ce n'était pas des termes bibliques. Et comme, d'un autre côté, il ne se trouve pas dans la Sainte Écriture, il a été décidé qu'on le mettrait de côté et qu'à l'avenir, il ne serait plus question d'oussia à propos de Dieu. On ajoute, nous pensons que le Fils étant tout semblable au Père, ainsi que les Saintes Écritures le disent et l'enseignent. C'est ce qu'on appelle le credo homéen. Je vais essayer d'accélérer. Le credo homéen. Alors, on réunit les deux conciles, à Rimini et à Seleucie d'Isaurie, en 359. Donc, les évêques sont sommés de signer le credo homéen ou sont exilés. Ah, bon, Phébat d'Agen, par exemple, serait exilé, un des grands pères orthodoxes des Gaules. 360, un grand concile à Constantinople qui entérine les choses. On exclut toutes les formules parlant de Oussia, Homo Oussios, Homo Oussios. Le grand problème, c'est qu'il y avait un évêque barbare, c'était une fille-là, évêque des Goths. Et l'arianisme a passé chez les barbares sous la forme homéenne, si vous voulez. Et ils seront très très longtemps, jusqu'au 6e, 7e siècle, les barbares. Alors, les événements vont encore une fois changer le cours de l'histoire. Le César Julien, qui était un cousin éloigné de Constance II, proclamé Auguste à Paris en 361, il est vainqueur de Constance II. Il devient l'empereur Julien l'Apostat. Pourquoi ? Parce qu'en 347, il avait renié le christianisme. Alors, au début, il se montre très tolérant parce qu'il se dit les chrétiens vont se disputer, donc ça c'est très très bien, ce qui défend le paganisme. Et puis après, il sera vraiment persécuteur. Heureusement, il meurt. Il sera tué par les Perses en 363. Alors, l'avènement d'une nouvelle dynastie, le déclin de l'arianisme, ce qui va nous conduire au deuxième concile œcuménique. Valentinien Ier succède à Jovien qui n'a régné que quelques mois. Alors, c'est un grand soldat et c'est un orthodoxe. Mais lui, Valentinien Ier, qui va régner sur l'Occident, ne veut pas s'occuper des affaires ecclésiastiques. Alors, il va s'adjoindre, hélas, son frère Valens, qui va devenir empereur d'Orient et qui, lui, est un arien terrible, un arien fanatique. Alors, l'empereur Valens va s'en prendre d'abord aux homéoussiens, parce qu'il les trouve trop tièdes. Une partie des homéoussiens se disant que, finalement, à propos du Christ, on ne peut plus faire grand-chose dans la mesure où les orthodoxes semblent quand même vainqueurs, ils vont s'en prendre à la divinité du Saint-Esprit et ils vont dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est ceux qu'on va appeler les pneumatomaques. En grec, c'est ceux qui combattent l'esprit. Alors ça, c'est une variante d'Arien qui va en fait produire le concile de Constantinople, si vous voulez. Parce qu'il ne s'attaque plus à la divinité du Christ, mais il s'attaque à la divinité du Saint-Esprit. On les appelle parfois les Macédoniens à cause de Macédonius de Constantinople. Saint Athanase a écrit sur le sujet, les lettres à Sérapion, magnifique. Saint Athanase a régné un concile en Alexandrie, il a envoyé un tome aux Antiochiens dans lequel il dit cette phrase magnifique. L'esprit est de même substance et divinité que le Père et le Fils. Homo ousios, l'esprit est de même substance et divinité que le Père et le Fils. Et dans la Trinité, il n'y a absolument rien de créé, rien qui soit inférieur, rien qui soit postérieur. Bon, rien n'y fait. Il y a un front pneumatomaque qui se constitue autour d'un certain nombre d'évêques, comme Eustade de Sébaste, Élésius de Cyzique, Marathonius de Nicomédie. Mais pendant cette période, l'empereur Valens s'est occupé à la guerre, et donc les orthodoxes soufflent un peu. Puis Valens rentre de la guerre, il rentre à Constantinople en 369, et il recommence à persécuter les orthodoxes. Alors il y a un grand évêque en Orient qui va s'élever contre l'empereur Valens, c'est Saint Basile de Césarée. Alors je vous passe sur la vie de Saint Basile de Césarée, qui était un grand ascète, un grand écrivain ecclésiastique, grand orateur. Il succède à Eustate en 370. Grand liturge. Saint Basile avait une âme de chef. Alors, les envoyés de l'empereur passent dans tous les sièges épiscopaux. Évidemment, ils demandent aux évêques de signer le credo homéen où ils sont envoyés en exil. Basile résiste. Basile, après la mort de saint Athanase en 373, devient le phare de l'orthodoxie. Basile résiste et dit non, et il lutte contre les pneumatomaques. Il aura une très très belle réponse au préfet d'Orient Modeste. Il va lui répondre par écrit, il va lui dire « Mais tu n'avais jamais rencontré un évêque ?» C'est « Non ». Il dit « Tu peux prendre mon corps, peu m'importe, je suis un ascète. » Il dit « Non ». L'empereur recule. C'est vrai qu'il est extraordinaire. Basile, tiens ! Et l'empereur recule. L'empereur, Valence, n'osera pas le déposer. Et encore une fois, ce sont les événements qui vont décider. Valentinien Ier meurt en 375. Son fils Gratien lui succède. Gratien, très grand orthodoxe. Gratien. En 376, les Goths se révoltent, l'empereur Valence entre en campagne, il est battu, il est tué. 378, le désastre d'Andrinople. Et à ce moment-là, Gratien s'adjoint pour l'Orient un grand général espagnol qui est Théodose. Voilà la nouveauté. Les deux empereurs sont orthodoxes et les deux sont baptisés, ce qui est très rare. Gratien était très très pieux, Rufin d'Aquilée se moquait de lui, il disait « trop pieux pour être empereur ». Le grand ami de Gratien, c'est saint Ambroise de Milan, qui deviendra son conseiller ecclésiastique. Alors maintenant, on arrive au deuxième concile œcuménique, et je termine. Théodose. Alors, les deux empereurs prescrivent un certain nombre d'édits, qui proscrivent l'arianisme, en 379, 380. En 380, Théodose interdit à tous les hérétiques de s'assembler dans les villes. Les grands évêques orthodoxes retrouvent leur trône, comme par exemple Mélès et Antioche, en 379. Grégoire de Nazianze, qui avait été appelé, qui est le grand ami de saint Basile, hein, c'est le plus grand de tous les théologiens après saint Paul, Grégoire de Nazianze, Grégoire le théologien. Il avait été appelé par les orthodoxes, parce qu'il y avait un évêque arien, il y avait une petite église dans une maison, on appelait l'église de l'Anastasis. L'empereur Théodose l'installe vraiment comme évêque à Constantinople. Et Théodose convoque un grand concile à Constantinople, mais c'est un concile de tout l'Orient, 381, qui se tiendra de mai à juillet 381. C'est essentiellement un concile oriental, 150 évêques d'Orient, que des orthodoxes, les Ariens ont été refusés, présidé d'abord par Mélès d'Antioche, puis un peu par Grégoire de Nazianze. Grégoire de Nazianze va démissionner parce qu'il estime que les décisions du concile vis-à-vis du schisme d'Antioche ne sont pas bonnes. C'est trop compliqué, je vous passe sur les détails. Comme il démissionne, on va élire un vieux sénateur qui s'appelle Nectaire, qui n'était pas baptisé, qui était catéchumène, et qui va devenir le nouvel évêque de Constantinople. Donc il y aura trois présidents pour le deuxième concile œcuménique. Alors il y a un tomos dogmatique qui est rédigé. On approuve solennellement Nicée, bien sûr. On rédige un tomos dogmatique, mais qui, hélas, est perdu. Par contre, un symbole de foi a été rédigé, et l'on pense que ce serait le résumé de ce tomos dogmatique. Alors, ce symbole de foi, très très important, je vais vous lire juste la dernière partie, il a été attribué à saint Grégoire de Nice, qui est un petit frère de saint Basile, un très très grand théologien, ou à saint Grégoire de Nazianze. Alors, comment est-ce qu'on le connaît, puisqu'il n'est pas dans les actes du concile? Le quatrième concile œcuménique, Chalcédoine 451, l'insérera dans ses actes deux fois, et le sixième concile œcuménique, 680, le confirmera. Alors, la grande nouveauté, c'est tout ce qui concerne l'Esprit Saint. Bon, c'est très simple, mais quand même, je me permets de le lire. La première partie qui concerne le Christ est des... pratiquement la même. On a gardé tous les termes. Dernière partie, les deux dernières parties, nous croyons, et en l'Esprit Saint Seigneur, ça veut dire qu'il est Dieu, puisqu'on a, avant Jésus-Christ, on l'appelait Seigneur. Et en l'Esprit Saint Seigneur, donc Dieu, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié, que le Père et le Fils, et qui a parlé par les prophètes. On ajoute, en l'Église, une sainte catholique et apostolique, je confesse un seul baptême en rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. C'est ça, le deuxième concile œcuménique. Et c'est l'origine de notre symbole de foi dit Nicée-Constantinople. Alors, les hérétiques sont éloignés, évidemment, de tous les sièges épiscopaux. Gratien convoque un concile de l'Occident 380 à Aquilée, présidé en fait par saint Ambroise, mais qui va régler juste des dispositions concernant les sièges qui étaient occupés par les Ariens. Et en 383, l'empereur Théodose réunit une conférence contradictoire à Constantinople avec les principaux chefs ariens. Il y a les Anoméens, les Oméens et les Pneumatomaques. Il les écoute et il fait brûler toutes les professions de foi des ariens. Hélas, l'arianisme va passer dans les nations barbares. C'est ce que José dit tout à l'heure. Je conclue. L'hérésie arienne a empoisonné l'Église pendant presque un siècle. Il y a eu beaucoup de martyrs pour la foi orthodoxe. Valence a fait tuer beaucoup de gens. Il faisait mettre le feu au bateau et les gens mouraient noyés. Mais il faut quand même dire que c'est grâce à eux que nous avons pu préciser l'expression de notre foi. Si on n'avait pas eu ce terrible accident de l'arianisme, au fond, peut-être on n'aurait pas estimé qu'il fût utile de préciser la foi. Donc tout ce combat n'a pas été inutile, au contraire, mais les pères ont dit à la fin, cette foi-là, c'est ce que nous croyons depuis toujours. La foi n'était pas nouvelle, mais son expression était plus précise. Pardonnez ma longueur.